Suivez le guide. Une série en partenariat avec Tourisme Haute-Corrèze. Pour cet épisode, on se rend à Spontour, qui est un village de la commune de Soursac, niché sur les berges de la Dordogne. Et c'est Bernard Lidov, le président de l'association des Gabards de Haute-Dordogne, qui nous a invités à participer à une visite guidée à bord justement d'une gabarre, une de ces embarcations qui ont longtemps été au cœur de la vie de Spontour.
Alors là, le principe de la balade, en principe, ils partent vers en haut, là-haut, de façon à voir tout le petit village de Spontour. Et le commentaire explique un peu la vie à Spontour, les différentes maisons et tout ça. On monte jusqu'au pont que vous voyez là-haut. Vous voyez le pont. Et après, on redescend et de là, on descend jusqu'à l'embouchure de la Luzège. Alors, l'intérêt, c'est l'isolement, l'éloignement de la vie. On a une impression d'être loin du monde, ça sans aller loin quoi.
Mais si maintenant les parigots ils viennent ici, ils achètent des maisons, ils ne t'inquiètent pas, il y a la connexion 4.
Eh bien tout d'abord bonjour à tous, bienvenue sur la Sponde Tournoise 4.
4.
Sur la rivière Dordogne, on va être à peu près 1h20, 1h30 ensemble. Hein. Donc elle est classée Natura 2000 et à l'UNESCO. Alors sur votre... déjà moi je me présente, c'est pas mal. Hein. Je m'appelle Sébastien, je suis le pilote. C'est lui le pilote là-bas. Non, moi je suis le mousse et Alain le pilote. Des fois c'est moi, ça dépend. Alors sur votre gauche, vous avez donc Spontour. Alors Spontour avant s'appelait El Spontour. Pourquoi El Spontour? C'était parce que c'était un village de ponts. Alors faut savoir que la Dordogne, avant les ponts en pierre, il y avait même des ponts en bois. Hein. Et comme maintenant on est entre deux barrages, avant il faut bien dire que le niveau d'eau était nettement plus bas, ce qui fait qu'ils traversaient même l'été à gué. Donc à pied, ils traversaient la Dordogne. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Spontour, il n'y a pas de grange, il n'y a pas beaucoup de terrain autour des maisons. Ils ne faisaient pas d'agriculture. Hein. Eux, ce qu'ils faisaient, c'était donc ils étaient déjà bûcherons, pêcheurs, mais ils étaient bateliers. Il faut savoir que c'était la capitale de la batellerie ici, au temps des Gabards. Hein. Alors des chantiers, il y en a eu jusqu'à 8, hein, 8 chantiers navals, hein, ça commence à faire pas mal. Hein. Et ils en sortaient entre 300 et 350 gabarres par an. Alors après, je vous demandais à l'attention qu'il y a juste après la maison rose, là, vous allez voir une maison derrière avec des volets rouges. Alors cette maison, maintenant, c'est la petite fille du dernier gabarier qui a existé, hein, monsieur Julien Espinas. Il a commencé à l'âge de 13 ans. Hein, et il a fait ça pendant 8 ans jusqu'à la guerre, quoi, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Vous hein, voyez ? Voilà, jusqu'à la maison où il y a les volets rouges. Maintenant, c'est sa petite fille qui habite dedans.
D'accord.
Et c'est pareil, là-bas, vous allez voir, il y a marqué école. Ça, c'est l'école du village. Bon, elle n'est plus en activité, et maintenant, c'est un gîte. Hein. Et école avec un S. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un S à école ?
Non.
Eh bien, c'est parce que c'était filles et garçons. D'un côté, il y avait des filles, de l'autre côté, il y avait des garçons. C'est pour ça que école avec un S. Alors là, c'est pareil, il y a eu aussi encore un monsieur qui a donc officié en tant que professeur, mais qui était aussi gabarier, monsieur Soudaï. Et c'est le premier, d'ailleurs, première personne, tu feras gaffe, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, il y a un truc à couler, pas le foutre dans l'hélice, quand on passera, t'as vu ? C'est le premier à avoir fait justement les gabarres touristiques, vous voyez, en 1936. Alors, il avait été à Paris, il avait demandé les subventions. Ils ont fait la gabarre et ils descendaient donc, parce que là, il n'y avait pas les barrages, hein, donc ils descendaient en eau libre. Et arrivé à Argentat, donc il y avait des cars qui étaient affrétés pour remonter les gens dans le village. Et la gabarre, elle était ramenée sur une remorque avec un tracteur. Par contre, ça n'avait rien à voir avec nous, il n'y avait pas de banc. Les gens étaient debout. Hein, et en eau libre, hein, ce qui veut dire que c'était le courant qui les emmenait. Hein. Alors leur descente de nos gabariers pour le tournoi, c'était pas comme nous, hein. C'était pas une seule gabarre qui descendait. Eux, c'est entre 5 et 15 gabarres qui descendaient à la fois, qu'ils appelaient donc déjà à cette époque-là un convoi. Et il faut savoir qu'ils descendaient en file indienne. Il n'y avait pas les barrages, donc le niveau d'eau était nettement plus bas. Où nous sommes là, il n'y avait pas d'eau. Le lit de la rivière était à l'opposé, était tout là-bas. Et c'était impossible de naviguer côte à côte, hein. C'est une descente en file indienne. Alors ce pont d'eau comprenait à peu près entre 500 et 600 personnes qui vivaient à l'année, contrairement à maintenant qui a à peu près 50 personnes. Et ces 500-600 personnes, eh ben, c'était que des familles donc de gabariers, de pêcheurs ou de bûcherons. Donc faut bien s'imaginer comme c'est quand ils partaient en convoi entre 5 et 15 gabarres, bah, tout le village était au bord de l'eau et leur faisait un signe de la main. Faites attention à vous, surtout quand ils partaient quand même pour plusieurs semaines. Donc faites attention à vous, revenez vivants. Et il y avait même les anciens gabariers, l'alarme à l'œil, mais trop vieux pour prendre à descendre, savaient de quoi ils parlaient. Après, quand ils revenaient au village, ben, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça. Les seules distractions qu'ils avaient, eux, c'était des veillées. Alors dans ces veillées, ben, les gabariers racontaient un peu leur descente, ce qui se passait justement dans les malpas, ce qui se passait dans les auberges, sans oublier bien sûr de raconter aussi la remontée et d'en rajouter un peu. Ben, déjà, pour que ça dure dans le temps et faire peur un peu aux femmes ou aux enfants. Hein. Parce qu'il fallait quand même que ça dure. Alors tout à l'heure, je vous ai dit brièvement le mot malpa. Donc comme je l'ai dit, le malpa, c'est un rapide. Donc c'est un endroit qui est quand même assez dangereux et que le courant va très vite. Et là, nous arrivons sur le premier malpa qu'il y avait en partant de ce pont de Tour. Et tous les malpas ont un nom. Et celui-là, il s'appelait Roche de Raz. Et je vous présente donc Roche de Raz.
Par rapport à la roche.
Voilà, comme je vous dis tout à l'heure, le niveau d'eau était nettement plus bas. Ce qui veut dire que nous sommes là, il n'y avait toujours pas d'eau. Le lit de la rivière était là-bas, vous voyez. Donc il fallait raser la roche pour pouvoir passer. C'est pour ça qu'on l'appelait Roche de Raz. Alors, malpa, c'est un terme générique. Celui-là, c'est un tombant. Vous voyez, il y avait aussi les ajustants. Alors les ajustants, c'était des pierres légèrement en pointe, à fleur d'eau, qui pouvaient déchirer le dessous de la gabarre. Et vous aviez les maigres. Les maigres, c'est où il y avait très peu d'eau. Donc on pouvait s'échouer facilement. Alors il faut savoir que donc, avant de partir de ce pontour, ben, il y avait une messe qui était dite par le curé du village pour bénir les gabarres et les gabariers. Ils partaient pas sans. Ensuite, à chaque début de malpa, ils se signaient. Donc en gros, ils faisaient leur croix, leur signe de croix. Ils invoquaient Sainte Marie Magdalène et Sainte Barbe, les cinq prophétesses donc des bateliers. Et ils avaient un petit carnet, et dans ce petit carnet, eh ben, ils référençaient tous les malpas. Alors c'est sûr, un malpa, d'une année à l'autre, hein, eh ben, il ne changeait pas d'endroit, hein, comme celui-là, il restait toujours pareil. Ouais. La différence, là, c'est que l'hiver, il y avait de la roche qui tombait, des arbres qui se coinçaient. Donc ils changeaient d'apparence, donc ils les notifiaient pour ça. Parce qu'il faut savoir que des malpas, en partant donc de Bord-les-Orgues jusqu'à Souillac, il y en avait 80. Voilà, 80 malpas. Alors comme celui-ci qui faisait quelques centaines de mètres, qui n'était pas bien grand, le plus grand, bon, on n'ira pas, il était au pont du Chambon, il faisait 5 km de long. Alors vous imaginez faire 5 km de rafting, parce que c'était ça, avec une gabarre et en plus chargée, c'était quand même déjà des prouesses à cette époque-là. Hein. C'était déjà fort.
Vous parlez de la différence des gabarres, vous voyez les paysages, vous n'avez pas ça même à bord, c'est pas pareil quoi. Et à Beaulieu et Argentat, évidemment, c'est différent. Et vous allez voir, plus on va descendre et plus ça paraît encaissé. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est l'intérêt de cette balade en gabarre en fait. C'est que vous vous retrouvez dans une nature.
On est dans une vallée effectivement très encaissée avec quasiment bah, que de la forêt quoi en fait.
Ah oui, il n'y a que des forêts. Alors la forêt. Cette forêt, elle a 100 ans, parce qu'il y a 100 ans, ici, il n'y avait plus d'arbres. Tous les arbres avaient été exploités pour descendre le bois, parce qu'il va en parler tout à l'heure, hein, pour faire les tonneaux du Bordelais et du Bergeracois. Tous les arbres étaient coupés. Les photos qu'on a de fin 19e, il n'y a plus un arbre. Il y a des buissons qui font 1 mètre, 1 mètre 50, et il n'y a pas d'arbres. Et comme il y avait beaucoup de moutons à l'époque, les moutons empêchaient la repousse des arbres, ils bouffaient tout, quoi. Voilà, donc on avait des machins qui étaient pelés. Et à partir du moment où les gabarres se sont arrêtés, où il n'y a plus d'impact économique dans la vallée, les troupeaux de moutons ont disparu progressivement et la forêt a repris ses droits. Donc en fait, si cette forêt-là n'est pas touchée, c'est la naissance d'une forêt primaire. Voilà, et celle-là en gros 100 ans, puisque depuis 100 ans, il n'y a plus d'animaux à part les animaux sauvages, quoi. Il n'y a plus d'animaux domestiques.
Alors vous voyez les nids qui sont là-haut ?
Où ça ?
Derrière.
Les hérons ?
Derrière.
Ah oui, 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 tout à fait, oui.
C'est des nids de hérons.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, les nids.
Ah, c'est des nids de hérons. Alors il faut savoir que les nids de hérons, donc généralement ils sont au sommet, et ils sont plats. Ils sont plats parce que quand le héron naît, il se met tout de suite debout, lui. Et les héronnières pour faire 1 mètre de diamètre, hein. C'est des beaux nids. Hein.
Ah oui.
Oui, oui. Après, vous avez quelques nids de Milan aussi, là, que vous voyez un peu plus bas.
Ah, ils sont heureux, là.
Ah, c'est sûr que personne ne les dérange.
Ah, ouais.
Là, ils sont tranquilles là-dessus. Ouais.
À la fin de la guerre, Il y a un gars, alors je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre des chamois au Puy-Marie. Alors ils ont lâché des chamois. Quelqu'un a dû penser en disant c'est des régions de montagne, on n'a qu'à y lâcher quelques chamois, on verra ce que ça fait. Donc il y a des chamois qui ont été lâchés sur le Puy-Marie et il y a des bouquetins, c'est-à-dire avec les cornes striées là, qui ont été lâchés sur le plomb du Cantal. Et les deux, le plomb et du Cantal et le Puy-Marie étant séparés par la route qui va d'Aurillac à Saint-Flour. Il y a une route qui passe. Et d'ailleurs, ces populations ne sont jamais vraiment mélangées, étonnamment. Et alors les chamois se sont multipliés, mais le problème, quand le nombre devient trop important, je ne sais plus combien c'est, 200 ou 250, ils sont obligés d'organiser des battues pour éviter les maladies. Sinon, ils attrapent, ils sont trop nombreux. Et alors ça a duré pendant 60 ans, 70 ans, et étonnamment, depuis 4-5 ans, ils descendent le long de la vallée. Alors qu'ils ne le faisaient pas avant, puisque le chamois, c'est quand même un animal de montagne qui aime la neige, les névés, c'est pour ça qu'il se plaisait là-haut. Et on ne sait pas, enfin, je n'ai pas l'explication, peut-être qu'un biologiste spécialisé là, mais on ne sait pas bien pourquoi, ils ont commencé à descendre la vallée de la Dordogne, et ils s'en trouvent jusqu'aux ruines de Merle, ils s'en est trouvé. Enfin, c'est la Maronne, c'est la rivière d'à côté, mais ici c'est pareil, et là ils descendent pratiquement jusqu'à Argentan. C'est étonnant, c'est vraiment, alors on ne sait pas trop pourquoi. Mais alors là, enfin, on ne sait pas pourquoi. Une des explications, c'est qu'ils sont tranquilles, parce que dans ces vallées, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, l'activité agricole est limitée sur le plateau, sur le plat. Dès que ça commence à pendre, la forêt a repris ses droits. Donc ils sont tranquilles. Il n'y a pas de. Sur 100 km, personne ne les embête. Quoi.
J'entends le vent.
Ouais. C'est quand même sympa comme cadre. C'est super. Quoi. Alors, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Et puis, enfin, c'est important. On essaie de faire que y ait un maximum d'enfants. Avec EDF, EDF nous avait payé des gabarres pour qu'on fasse venir tous les enfants des écoles, de toutes les écoles primaires autour. Tout ça, ça a été fait pour les sensibiliser à la beauté du paysage qu'ils ont sous la main, en fin de compte. Voilà. C'est sûr que c'est
vrai que c'est un paysage, finalement, qu'on peut voir que en gabarre.
Ah ouais, parce que là il n'y a plus de route, il n'y a même pas de chemin. Alors, il n'y a pas de chemin, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Hein. Il doit y avoir une piste qui descend le long, là, qui a été faite, je ne sais pas si elle passe là. Il y a une piste qui descend jusqu'au barrage du Chambon. Alors on peut le faire avec un 4x4 hein, seulement. Vous ne le ferez pas avec une voiture de tourisme.
Voilà. Si vous avez envie de monter à votre tour sur une gabarre, eh ben rendez-vous à ce pontour du 1er avril au 31 octobre. Et c'est encore mieux si vous avez réservé votre billet auparavant auprès de Tourisme Haute-Corrèze.